quoi.
Oui, oui. C'est dans ce sens-là, d'accord. Oui, il vaut mieux que ce sens-là. Voilà. Ben.
Que le Seigneur nous bénisse.
C'est bien, il y a une suspension en plus. S'il y a des chaos, au moins je ne les sentirai pas. Celui-là, il est coupé, alors, je suppose. Ah, ah, oui. Alors, d'abord, je voudrais vous donner quelques salutations, bien sûr. D'abord, de la part de l'église de Saint-Étienne. Entre autres, peut-être que vous connaissez Serge et Christelle Play, qui sont certainement venus ici pour prêcher, et puis aussi Thierry Blanc et Claire Blanc, voilà, qui vous saluent bien. Alors, ce matin, je vais essayer de vous partager quelque chose qui a un rapport avec les 10 commandements, puisque cette étude fait partie d'un ensemble d'interventions que je fais actuellement à Saint-Étienne. Et le mois dernier, j'ai donné la 6e parole, en fait, puisque dans l'Ancien Testament, il est parlé de parole. Le mot commandement n'existe pas dans le texte. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la 5e parole. Bon, je l'ai donnée il y a déjà quelque temps. Et cette étude, en fait, le but, c'est d'axer un petit peu sur l'origine de l'hébreu, en fait, parce que faut bien savoir que le Premier Testament a été écrit en hébreu, que Dieu s'est d'abord adressé à eux avant de s'adresser à des chrétiens. Et là, il n'y aura pas beaucoup d'hébreu, mais c'est vrai que dans les premières parties de mon étude, j'avais beaucoup axé sur le sens des mots et l'approche en hébreu, parce que c'est quand même essentiel pour mieux comprendre en fait ce qui est dit dans le Premier Testament et entre autres dans les 10 commandements ou les 10 paroles. Un des maîtres, alors si tu affiches, voilà, merci. Oui, c'est vrai. Il est c'est petit, mais bon, ça ira. Un des maîtres du judaïsme, qui s'appelle Léon Ashkenazi, ça s'écrit Ashkenazi, mais on prononce Ashkenazi, a dit à propos de la lecture juive, elle s'est transmise d'âge en âge, de maître à disciple, de père à fils, fortifiée par les études et la vie et la prière de la méditation de 100 générations qui ont consacré à la loi de Dieu, insérer dans les réalités quotidiennes le meilleur de leur jour et de leur nuit, de leur intelligence, de leur cœur et de leur être. Alors c'est vrai que quand on entre dans les sources hébraïques, on s'aperçoit vite qu'elles sont essentielles pour une meilleure compréhension des textes du Premier Testament et entre autres du Décalogue. Nous trouvons cette 5e parole, puisqu'en fait c'est la 5e que je veux partager, dans 2 passages du Premier Testament. Alors le premier se trouve dans Exode, au chapitre 20, verset 12, dans lequel il est dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu te donne. » Donc ce premier texte nous montre que honorer son père et sa mère, c'est à travers eux honorer Dieu. Et puis le deuxième texte se situe dans Deutéronome, chapitre 5, verset 16, qui dit « Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, et afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel te donne. » Alors là, ce passage, en fait, nous dit que c'est un ordre et que le fait d'accomplir cet ordre, eh bien, ne peut que nous rendre heureux. La fois précédente, j'avais, dans ce cadre d'études, j'avais abordé la 4e parole qui parle du sabbat, et j'avais expliqué que le repos hebdomadaire était une façon de se positionner dans le temps. Alors que le monde d'aujourd'hui, en fait, nous contraint de plus en plus à ne considérer que l'espace. Le temps nous amène aux notions de construction, de fidélité, de rythme, alors que l'espace suggère la consommation, l'immédiateté, moi d'abord, rien après, rien avant, c'est la société de consommation par excellence. Les propriétaires qui ont une forêt pour l'exploitation du bois, je dirais qu'ils sont l'exemple parfait. Alors, ils ne seront pas tous comme ça, bien sûr. Je ne veux pas non plus généraliser, mais quand même une grande partie, c'est un peu ça. En fait, ils préfèrent planter des pins et des sapins, c'est-à-dire des conifères. Pourquoi ? Parce que ça pousse beaucoup plus vite que les bois plus nobles, comme le hêtre, le chêne, le frêne. Et parce que eux, pour les faire pousser, il faut 10 fois, 20 fois plus de temps que pour faire pousser un pin et un sapin. Et finalement, c'est un concept qui repose en fait sur la rentabilité. Dans l'Odyssée d'Homère, il y a un passage qui fait penser finalement un petit peu à notre société. Après une tempête, Ulysse aborde une île inconnue. Et donc, dans cette île, il va envoyer 3 marins pour prendre contact avec la population de l'île. Et effectivement, il rencontre des personnes qui l'accueillent, mais alors très gentiment. Et ce peuple leur propose de partager un repas avec eux. Mais ce que les marins ne savent pas, c'est que ce sont des lotophages, c'est-à-dire des mangeurs de loto, de lotus. Et le problème, c'est que ce mets délicieux, bien sûr, dans l'histoire d'Homère, fait tout oublier. Quand une personne mange de ce mets, il oublie tout, ne se souvient de rien, ni de son passé, ni de qui il est, ni où il va. Et les conséquences, c'est que finalement, ça devient chaque jour deviennent des petits plaisirs qui sont très vite oubliés. Alors bien sûr, Ulysse, ne les voyant pas revenir, il va les chercher. Et il est obligé de les ramener de force à son bateau. Et quand il s'éloigne, effectivement, les effets vont s'estomper peu à peu et ils vont reprendre leur lucidité. Mais dans le monde actuel, la lotophagie ambiante, qui accorde la valeur d'un individu sur sa capacité à jouir de la société de consommation, crée une approche finalement un peu très singulière vis-à-vis des anciens. Alors, comme le souligne Antoine Nouy, c'est un pasteur, qui est aussi théologien de l'Église réformée, dit ceci: on dira que le vieux est formidable s'il est adapté et pas trop vieux. S'il est en bonne forme et qu'il contrôle Internet, s'il conduit encore sa voiture, qu'il peut aider ses enfants. En revanche, si par malheur il a eu quelques maladies invalidantes, si son travail l'a épuisé et qu'il garde ses séquelles, s'il manque d'enthousiasme pour l'avenir et si les merveilles de la technologie moderne lui paraissent incompréhensibles ou superflues, on ne louera plus sa sagesse. On le cachera, on le dissimulera, on ne l'honorera plus. Cette façon d'aligner l'honneur dû aux anciens sur leur capacité de consommation est exactement l'inverse de ce que dit le commandement biblique. Alors, vous savez, il y a une méthode pour distinguer les sociétés modernes. C'est la relation à la mémoire. Dans certaines parties du monde, il y a encore, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique, en Océanie, quelques sociétés traditionnelles qui changent peu. Elles sont plus nombreuses, mais il y en a encore un peu, dans lesquelles la mémoire est synonyme d'expérience. C'est pourquoi les anciens sont écoutés. De nos jours, ce sont les jeunes qui sont adaptés. Ils ont un cerveau plus souple, c'est évident, plus mobile. plus au fait des dernières innovations, alors que la mémoire n'a plus beaucoup de poids ni d'utilité. Dans le livre d'Ésaïe, il y a un passage où Dieu annonce un jugement sur Jérusalem, décrivant ce qui arrivera. Et quand on lit attentivement ce texte, on s'aperçoit que le monde d'aujourd'hui ressemble de plus en plus à ce que dit Dieu dans ce passage. Alors là, c'est dans Ésaïe, il y a Ésaïe 3, les 5 premiers versets. Alors on va d'abord lire les 3 premiers. Le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, va retirer de Jérusalem et de Juda tout appui et toute ressource de pain et toute ressource d'eau. Le héros et l'homme de guerre, le prophète, le devin et l'ancien, le chef de cinquantaine et le magistrat, le conseiller, l'artisan distingué et l'habile enchanteur. Quand les autorités, quelles qu'elles soient, depuis le gouvernement, en passant par les administrations, que ce soit les préfectures, les mairies, les tribunaux, les écoles, les facs, jusqu'aux parents, ont oublié la mémoire qui maintient l'unité de la société, alors arrivent les conséquences du retrait qu'Ésaïe, en fait, décrit dans les 3 premiers versets. Ensuite, suivent les versets 4 et 5 qui décrivent les conséquences d'une telle attitude. Je donnerai des garçons pour chefs et des gamins capricieux domineront sur eux. L'oppression sera réciproque parmi le peuple. Chacun opprimera son prochain. Le jeune garçon maltraitera le vieillard et le vaurien, celui qui est honoré. Ne trouvez-vous pas que ça ressemble un peu à notre société ? Il ne se passe pas un jour où, justement, l'autorité n'est plus acceptée et n'est plus respectée. Quand un policier veut arrêter quelqu'un, la personne soit le fuit, soit lui fonce dessus. Quand un pompier intervient, on lui lance des pierres, etc. Dès qu'une personne représente une autorité, il doit disparaître, parfois même, dans la pensée de certains. La malédiction d'une société, c'est lorsque ce ne sont plus les anciens, mais les jeunes qui sont au pouvoir. Le ministère d'Ésaïe a duré une quarantaine d'années, c'est-à-dire de moins 740 à moins 700. Et 3 siècles et demi plus tard, Platon dira à peu près la même chose dans une page qu'il a appelée « La République ». Quand leur père tremble devant leur fils, quand les maîtres n'enseignent plus aux élèves mais préfèrent les flatter, quand finalement les jeunes ne respectent plus la loi parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni personne, alors c'est là, en toute beauté et toute jeunesse, le début de la tyrannie. Ce qui est à l'origine du totalitarisme, en fait, c'est la rupture avec le passé. Fascisme, maoïsme, communisme, et presque tous les mots qui finissent par isme. Presque, pas tous, bien sûr. En Italie, par exemple, le mouvement futuriste, qui se caractérisa par son adhésion au fascisme, véhiculait la haine de son histoire. Dans son manifeste du futurisme, Marinetti déclarait « Nous détruirons les bibliothèques, les musées, les académies de toutes sortes. Nous n'avons pas besoin du passé. Nous sommes jeunes et forts. La guerre représente la forme la plus intensive de la vie. Wow. » Quelle contradiction dans une telle allégation. Comment la guerre peut nourrir la vie. Vous savez, moi je suis aumônier en psychiatrie, je me dis, bon, c'est une personne que je pourrais trouver dedans, en fait, hein, en psychiatrie, c'est évident. D'ailleurs, une des raisons pour laquelle Hitler s'en est pris aux Juifs, c'est parce que c'est un peuple de mémoire. Et pour lui, c'était absolument insupportable. Insupportable. Il y a encore aujourd'hui même des chefs de certains grands pays qui ont un peu ce profil. Pour terminer avec cette parenthèse, on reviendra après vraiment sur le vif du sujet, mais je pense que c'est important de, quand même d'expliquer ça. Je veux juste rappeler quand même ce terrible événement de ce qu'on a appelé quand même l'autodafé de Berlin. Dans la nuit du 10 mai 1933, 100 jours après que Hitler fut nommé chancelier du Reich, Joseph Goebbels, alors ministre de la propagande, avait demandé qu'on jette dans d'immenses feux entre 25 000 et 30 000 livres qui ne représentaient pas la pensée allemande de l'époque, bien entendu. Et bien entendu, par la suite, ce sera les prémices d'une barbarie qui durera 5 ans. Voilà. Donc je termine cette parenthèse. D'après la Bible, qu'est-ce qu'un père? Qu'est-ce qu'une mère? Concernant notre relation avec nos parents, dans le Premier Testament, il y a deux versets qui semblent contradictoires. Le premier se trouve dans Genèse, au chapitre 2, verset 24. L'être humain quittera son père et sa mère. Et puis le second, que nous avons lu tout à l'heure, qui dit, dans Exode 20:12, honore ton père et ta mère. Alors, est-ce qu'il faut quitter nos parents ou est-ce qu'il faut les honorer? Deux versets apparemment opposés et qui pourtant sont complémentaires. Il est intéressant de remarquer que lors de la création, Dieu commence par la famille, parce que c'est le premier noyau de toute vie sociale. N'oublions pas que si Dieu est le créateur de la cellule familiale, qu'il a commencé par le couple. On le voit ça dans Genèse 2, versets 22 à 24. Alors, on croit savoir, en regardant la nature autour de nous, ou en réfléchissant sur nos propres sentiments paternels et maternels, ou bien encore sur les lois de la biologie. Malheureusement, ce n'est pas en observant autour de nous, ou en regardant en nous, que nous pouvons comprendre ce qu'est la paternité. C'est seulement en regardant vers Dieu. L'apôtre Paul n'avait probablement plus ses parents quand il s'est converti, et la Bible nous dit qu'il n'était pas marié. Donc, et par conséquent, il n'avait pas fondé de foyer. Pourtant, il a eu la révélation de la paternité en mettant son regard vers Dieu. Et on voit ça dans Éphésiens, chapitre 3, versets 14 et 15. « C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille, dans les cieux et sur la terre, tire son nom. » Même si les Écritures ne prononcent jamais le nom propre de Dieu, elles le présentent comme le Père. Le cantique de Moïse qui s'adresse au peuple dit en parlant de Dieu, Deutéronome 32, verset 6, « N'est-il pas ton Père, ton Créateur ?» Et il parle à un peuple, il parle au peuple hébreu. Tout un peuple, il dit ça. « N'est-il pas ton Père, n'est-il pas ton Créateur ?» Finalement, comme le dit Jules Taubois, alors, je pense que beaucoup d'entre vous avaient connu Jean-Marc Taubois, qui est venu ici plusieurs fois. Alors, Jules Taubois, c'était son oncle. Alors, c'est une personne que nous, avec Charou, nous avons bien connue, et je sais que Jean-Marc aussi. C'est un grand gaillard, aussi grand que moi, mais alors beaucoup plus carré. Et il était le pasteur du Point du Jour à Paris. Et il dit ceci. Comprendre la paternité, c'est donc reconnaître qu'au-delà de notre père et notre mère qui nous ont fait naître, nous avons un Père céleste qui nous a créés. Honorer son père et sa mère, c'est découvrir en fait une coopération vitale entre le Père céleste et nos parents, même si une grande partie des parents n'en sont pas conscients. Dans Genèse 4, par exemple, au verset 1, lors de la naissance de son premier fils, Ève s'est exclamée « J'ai mis au monde un homme avec l'aide de Dieu ». Il ne faut pas s'étonner aussi que dans notre société qui a rejeté Dieu, il y ait autant de problèmes au sein des familles. On ne rejette pas Dieu sans qu'il y ait des conséquences, et des conséquences graves, au niveau comportemental de la famille. Le déchirement de la cellule familiale, le nombre de familles monoparentales n'arrête pas d'augmenter. Les grands-parents sont de plus en plus éloignés, physiquement et parfois même moralement. Le nombre de personnes déracinées, en perte d'identité et en constante augmentation. Et forcément, quand la famille va mal, eh bien la société va mal. Les psychologues et les psychiatres, tout comme les pharmaciens, ne sont pas prêts d'être au chômage, croyez-moi. Ce qui est important, c'est que ce qui est dit aussi dans cette cinquième parole, « Honore ton père et ta mère », le verbe « honorer » traduit le terme hébreu « kabed », dont le sens littéral est de « donner du poids ». Et contrairement à ce que certains pensent, il n'est pas demandé à ses parents de les aimer. En tout cas, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas ce qui est demandé en premier. Ce qui est demandé en premier, c'est de les honorer et de les respecter. C'est-à-dire de leur donner de la valeur. Parce qu'ils sont importants, bien sûr. Les parents devraient être, d'ailleurs, dans l'absolu, les vecteurs d'une éducation qui amène leurs enfants à devenir des adultes qui soient équilibrés et accomplis. De même que le mot « gloire » qui traduit le terme hébreu « kabod » est dérivé lui aussi de la même racine. Alors en hébreu, c'est « k », « b » et « d », c'est-à-dire « kaf », « bet » et « dalet ». L'hébreu étant une langue sémitique, comme l'arabe, c'est une langue où il n'y avait pas de consonnes, pas de voyelles. C'était une langue consonique. Il n'y a que des consonnes. Et c'est récent, hein, la voyalisation était récente, puisque ça date à peu près de l'an 1000, à peu près, hein, entre 900 et 1000, que des maîtres du Talmud ont commencé à travailler pour mettre des petits points, des petits traits, pour donner une prononciation au mot. Il fallait vraiment être un hébreu pour savoir comment s'écrivait un mot et comment il se prononçait. Ce kabod, finalement, tout comme kabed, exprime l'idée de pesanteur. Ce qui est intéressant, c'est que Paul a fait le même rapprochement entre le poids et la gloire de Dieu dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens 4, 17, « Nos légères réflexions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ici, le mot « poids » traduit le terme « baros ». Et « baros » a donné le mot « bar », qui est l'unité de pesanteur, de pression. Hein ? Au niveau de la mer, la pression atmosphérique est de 1 bar. Si vous montez à 5000 mètres, la pression devient 0,5 bars, c'est-à-dire la moitié. Puis si vous descendez dans la mer, eh ben à 100 mètres, ce sera 2 bars. À 200 mètres, ce sera 3 bars. Donc, ça vient de mot « baros ». Et ce mot « baros », ben, c'est, en fait, c'est le mot « gloire » en grec. Et ça, c'est assez étonnant. Dans le schéma de communication, on dit qu'il faut une distance pour se parler. Quand on est collé l'un à l'autre, on n'est pas en communication, on est en fusion. Pour honorer quelqu'un, en fait, il faut prendre une certaine distance pour commencer par regarder la personne, écouter sa vie, ses combats, ses choix, ses épreuves et leur donner du poids. Entre parenthèses, c'est un exercice qui peut aussi, en tant qu'aumônier, que ce soit à l'hôpital d'ailleurs, ou en prison, que nous essayons de pratiquer, mais croyez-moi, c'est pas toujours facile. C'est vrai qu'il faut prendre de la distance avec la personne. D'abord, non pas simplement physique, mais une distance aussi au niveau affectif, parce que si on a de l'empathie, ce qui est normal d'avoir de l'empathie, mais si on en a trop, ça peut nous atteindre aussi. La souffrance de la personne peut nous toucher, et parfois même nous envahir. Parce que des fois, On peut se sentir, on peut s'identifier parfois, on peut avoir vécu aussi personnellement des choses que la personne avait vécues, et ça peut nous perturber. Et si on veut l'aider, il ne faut pas être perturbé. Et il faut avoir un peu cette distance pour pouvoir l'aider. Si on veut l'aider, on ne peut pas non plus fusionner avec la personne, ce n'est pas possible. Donc garder de la distance, ça ne veut pas dire qu'il faut pas avoir de l'empathie, il ne faut pas d'avoir de l'attention. Au contraire, il faut avoir beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, mais faire attention de prendre une certaine distance pour ne pas être atteint ni touché par ce qu'elle vit. C'est que comme ça qu'on peut l'aider. C'est ainsi que honorer ses parents, quitter et honorer ses parents, ce ne sont pas des verbes contradictoires, mais complémentaires. Ils sont la démonstration, je dirais, de la juste attitude entre enfants, adultes et parents. Alors je voudrais revenir sur le verset de Genèse, chapitre 2, verset 24. L'être humain quittera son père et sa mère. Alors, Emmanuel Todd dit dans son livre « La troisième planète, structure familiale et système idéologique », parlant d'un certain type de famille, il explique « Lors de la séparation entre les parents et les enfants adultes, il y a les familles dans lesquelles les enfants quittent leurs parents au moment du mariage et les familles dans lesquelles le fils ramène sa femme à la maison et construit sa famille sous le même toit que ses parents. » Le résultat, en fait, de son étude est assez étonnant parce qu'il constate que dans les pays qui ont un modèle familial dans lequel les enfants quittent les parents sont globalement démocratiques. Alors que ceux dans lesquels les enfants restent chez leurs parents sont plus un régime politique autoritaire. C'est un constat sociologique. Et c'est vrai que ça demande réflexion quand même. Hein. Alors pourquoi ce constat ? Antoine Louis nous en donne une explication. Le fait de quitter ses parents pour construire sa propre maison, sa propre famille, sa propre histoire, suscite l'apprentissage de la liberté. Car la liberté n'est pas la jouissance d'un quelconque loto, c'est une conquête. Quand la jeunesse dit que les enfants doivent quitter leurs parents, elle transmet un message politique. Le but de l'éducation n'est pas de garder les enfants le plus longtemps possible à la maison, mais de leur donner les ressources suffisantes pour qu'ils affrontent en adultes la réalité du monde. Les oiseaux, parfois, chassent les oisillons du nid pour qu'ils apprennent à voler. Alors, je ne sais pas si vous aimez ça, mais moi j'aime bien regarder les documentaires animaliers. Et une fois, j'ai vu un documentaire sur les aigles. Et vous savez, les aigles, ils ont un nid qu'on appelle une aire, parce que c'est pas un nid, c'est carrément une surface énorme. Et c'est souvent en altitude qu'ils ont ça. Et alors, il y avait deux adultes, il y avait probablement le père et la mère, et deux oisillons, mais des oisillons qui étaient pratiquement de la même taille que les parents, et qui devaient finalement, il fallait qu'ils partent, il fallait qu'ils apprennent à voler. Alors il y a le premier, il arrive au bord, il regarde, c'est incroyable, hein, il regarde, hop, il repart au fond, il dit non, là, ça va pas, c'est pas possible, hein, ça j'y vais pas. Et puis le deuxième, lui, il approche, il regarde, et hop, il se jette, et puis ça y est, c'est parti, il commence à battre de l'aile, et puis il s'envole, et puis il fait des tours et tout. Alors le deuxième, il voit ça, alors il revient, il repart en arrière. Une troisième fois, il s'approche, et là derrière, je sais pas si c'est le père ou la mère, un grand coup de tête, l'autre il est tombé comme une pierre, et hop, d'un seul coup, il a dit, ça y est, ouf, aïe, ça y est, il commence à battre de l'aile, il commence à voltiger et tout. Bon ben voilà, je dis pas qu'il faut faire ça avec nos enfants, mais il peut arriver à un moment où il faut peut-être faire quelque chose quand même, voyez. Alors, dans notre société, il y a ce qu'on appelle le syndrome Tanguy. Bon, je suppose que vous voyez la relation avec le fameux film du même titre, Tanguy. C'est vrai que quand un jeune travailleur c'est plus confortable quand même d'être chez papa et maman. Quand on est nourri, logé, blanchi et que notre salaire devient son argent de poche, plutôt que d'affronter la vraie vie. Mais parfois, les responsabilités sont partagées, hein, parce que certains parents possessifs, ne veulent pas trop que les enfants s'en aillent. Et que les enfants, ils imaginent mal un futur sans leurs enfants. Ça arrive aussi. Et lorsque la Bible dit que les enfants doivent quitter leurs parents, elle transmet un appel à la liberté et à la responsabilité. Voici une petite histoire que j'ai lue, que je suppose qu'elle s'est déroulée au 19e siècle. Vous entendez là parce que... Oui, vous entendez bien parce que je ne suis pas trop habitué avec ça. Là. J'ai une micro-cravate d'habitude, c'est pour ça. En fait, dans un village, il y avait un vieux pasteur qui était aimé par ses paroissiens, pour sa foi, sa fidélité, sa grande compassion envers les paroissiens. Et en ce temps-là, il arrivait que les fils prennent la suite. Quand le père n'était plus en fonction ou quand il avait disparu, donc c'était le fils qui pouvait prendre la voie ouverte pour prendre la responsabilité pastorale. Et un petit peu comme dans les autres métiers, hein, au 19e siècle, c'était comme ça. Les enfants suivaient et reprenaient la charge de travail du père. Les fils étaient plus rares. Bon, c'était plutôt la suite de la mère à l'époque, hein, c'était comme ça. Mais finalement, le vieux pasteur meurt. Les paroissiens vont penser immédiatement donc à aller voir le fils pour qu'il prenne la suite. Mais avant de prendre la décision, ils ont voulu quand même un petit peu le consulter pour savoir un petit peu s'il conviendrait à leur paroisse. Et le fils arrive et il déclare que il ressemble beaucoup à son père. Bon. Rassuré par cette affirmation, l'Église décide de lui demander de prendre la charge pastorale. Le fils s'installe, commence à changer beaucoup de choses dans l'Église. Les paroissiens, étonnés, pour ne pas dire un peu perturbés, vont le voir, ils l'interrogent. « N'avais-tu pas dit que tu ressemblais à ton père ?»« Je ressemble à mon père. Ben, » »« Oui, oui. De même qu'il animait la paroisse à sa façon, moi je l'anime à la mienne. » En fait, il est une fidélité qui consiste à ne pas copier ce que faisait celui à qui on veut être fidèle, mais faire preuve de la même liberté que lui. Entre défaut et excès, la mémoire, en fait, est donnée pour se souvenir et pour oublier. Pour oublier ce qui est sans valeur et sans intérêt, et pour se souvenir de ce qui est bon et important. L'oubli n'est pas un raté de la mémoire, même si moi je commence à avoir des oublis. Avec l'âge, on oublie quand même certaines choses. Mais ça découle en fait de son mode de fonctionnement, afin de mettre de l'ordre dans le compartiment à souvenir. Une pensée qui est bien organisée, eh bien, est une pensée qui discerne ce qu'elle retient et ce qu'elle l'oublie. Le Père Céleste. De même que nos parents ont porté dans leurs bras, nous sommes aussi portés par Dieu, dans ses bras, et ça tout le long de notre vie terrestre. Parce qu'il est la source de la vie. Beaucoup de gens sont malheureusement n'ont pas eu ce privilège d'être nés, désirés, attendus et choyés dans une famille aimante, équilibrée. Mais une chose est sûre, lorsque ces personnes ont fait une rencontre avec Dieu, avec le Père Céleste, alors elles ont cette possibilité de se restructurer, d'entrer dans une vraie famille qui prodigue de l'amour, de l'attention. Et cette famille, c'est l'Église, bien entendu. Vous savez, Jules Taubois dit « L'être humain est dépendant de ses parents et de Dieu, et le maillon d'une chaîne de vie. Nous devons reconnaître que nous ne sommes pas les maîtres de notre existence. Nous n'avons pas choisi nos parents. C'est Dieu qui les a choisis. C'est Dieu qui m'a fait naître dans ce foyer et pas ailleurs. » Alors c'est vrai qu'on peut avoir vécu des choses difficiles avec des parents. Moi, vous savez, mon père, j'étais petit, hein, j'avais 5-6 ans. J'ai découvert, mais par la suite, je ne comprenais pas bien, mais j'ai compris qu'il avait une maîtresse. Et ma mère a commencé à faire des dépressions. Et sa grande sœur, qui était en Algérie, à l'époque, c'était encore l'Algérie française, c'était en 55 ou 56, elle lui dit, bah, écoute, viens avec ton fils, ça te changera les idées. Et elle avait commencé même à aller dans ce qu'ils appelaient une maison de santé. Vous voyez, la maison de santé, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un asile psychiatrique, hein, avec des électrochocs, etc. Donc ça n'arrange pas, hein, je peux vous assurer, surtout à l'époque. Et donc on est parti, hein, je ne sais plus, 3 semaines, 1 mois. Et puis quand on est revenu, bah, la maison était vide, les affaires de mon père n'étaient plus dans les placards, il était parti. Et là, ça a été très compliqué. Pour moi, mais surtout pour ma mère. Très compliqué. Et elle a fait dépression sur dépression. Et ça a terminé même par... elle a fini Alzheimer. Et c'est une façon de vivre de notre enfance compliquée. Elle n'arrêtait pas de me, comme on dit, bourrer le mou contre mon père, que je ne voyais plus. Et à un moment, arrivé à 15-16 ans, je voulais le tuer. Bien sûr. Elle m'a raconté tellement qu'à la fin, je voulais le tuer. Bon, ça s'est un peu passé. Et heureusement, à 21 ans, j'ai rencontré le Seigneur. Et là, je le dis, mais c'est la vérité, Dieu m'a complètement restructuré. Mais ça a été difficile, croyez-moi. Et donc, je peux comprendre quand des personnes vivent des choses difficiles au niveau familial, mais je peux vous assurer qu'avec Dieu, c'est le vrai Père qui peut nous aider à le remettre sur les rails. Et c'est merveilleux parce que son amour déborde et puis vient en nous et peu à peu nous change, nous transforme, change nos pensées, nos idées. L'exemple de Jésus. À propos de cet exemple, d'ailleurs, Jules Taubois explique Jésus lui-même, qui venait du Père Céleste et qui était en relation avec lui, direct avec lui, n'a-t-il pas voulu, cependant, avec des parents humains et un foyer terrestre, dans sa vie familiale, il a su merveilleusement harmoniser l'honneur dû à ses parents et celui qu'il devait à son Père Céleste. Souvenons-nous de ce qui s'est passé au temps de Jérusalem lorsqu'il avait 12 ans. Luc 2, 49. Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ? Dit-il à ses parents lorsqu'il le trouve assis au milieu des docteurs de la loi. Puis il part avec Joseph et Marie et continue de les réjouir par son affection et son obéissance. Jésus, enfant puis adulte, a accompli parfaitement la cinquième parole. Il est le parfait exemple de la validité de la cinquième parole. Alors, on passe à l'héritage. Lors de la première étude que j'avais donnée sur les 10 paroles, j'avais expliqué qu'elles avaient été écrites sur deux tables en pierre. La première table parle de la relation entre Dieu et les hommes. La deuxième parle de la relation entre chaque. C'est une relation verticale, et là c'est de la 6 à la 7 à la 10. C'est les relations horizontales. Et cette parole qui demande d'honorer les parents a été écrite sur la première, étrangement. C'est la dernière en bas. Parce que c'est vrai que c'est étonnant, parce que c'est quand même des proches, les parents. Et de ce fait, cette parole est une parole transitoire. Transitoire, puisque tout en étant écrite dans la première parole, elle est une ouverture vers la deuxième. Cette relation avec Dieu et avec les parents nous amène à une notion qui est celle de l'héritage. La spécificité d'un héritage est d'être né et de n'être le résultat d'aucun mérite. Nous recevons non pas un héritage d'après nos mérites ou notre vertu, mais simplement de notre naissance. Monsieur le baron ou monsieur le comte de la Mirandole, le père est mort, bah, le fils il va hériter d'un yacht, d'une Rolls, de 3 châteaux, etc. Bon, moi, pour ma part, j'ai hérité de rien, c'est pas grave, Mais, oui, oui, ben c'est ça. Hein. Donc, c'est pas, l'héritage n'est pas mérité, mais il est dû parce que, voilà, ça fait partie de notre naissance. Et dans la parole de Dieu, il y a un mot qui est particulier pour ce qui concerne la gratuité de cet héritage. C'est la grâce. L'apôtre Paul dit dans Romains 8, 17, 15 à 17, « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». L'esprit lui-même rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés. » Le texte est clair. Le Saint-Esprit fait de nous des héritiers. Ce n'est pas nous qui choisissons notre héritage, c'est lui qui nous choisit. Nous n'avons rien fait pour mériter ce que nous héritons. La reconnaissance est essentielle. L'appel à honorer nos parents va au-delà du devoir de solidarité entre les générations. Si ce n'était que cela, cette ordonnance aurait été écrite sur la deuxième table. L'honneur rendu aux parents n'est que la reconnaissance pour le bien que nous avons reçu de leur part et en premier lieu pour la vie qu'ils nous ont donnée et le soin qu'ils ont mis pour nous de faire de nous des adultes. Encore une fois, c'est dans le cadre, bien sûr, d'une famille aimante, normale et équilibrée. Cette idée de reconnaissance est au centre de la tradition biblique, mais aussi, bien sûr, de l'éthique juive. Moi, pour ma part, je ne dois rien à mon père. Il est parti et il ne s'est pas du tout occupé de moi. Et c'est pas... Voilà. Et c'est vrai que pendant longtemps, je lui en voulais, mais voilà, Dieu m'a appris aussi à pardonner et voilà, à dire, bon, voilà, j'ai trouvé un nouveau père. Et puis ma mère, bah, elle était dans beaucoup d'incapacité aussi, quelque part, de me mettre dans un foyer bien équilibré, mais elle a fait quand même ce qu'elle a pu. Et quand même, grâce à elle, je ne suis pas devenu un délinquant, grâce à elle, je ne suis pas devenu alcoolique, grâce à elle, je ne suis pas devenu drogué, parce qu'elle était très attentive à ça. Et oui, et donc je ne peux que la remercier. Alors même si j'en étais pas conscient à cette époque-là, bien entendu. Mais c'est par la suite, quand on rencontre le vrai Père, le Père Céleste, c'est là qu'on se rend compte des avantages que les parents peuvent nous apporter, malgré leurs défaillances, malgré leur difficulté de pouvoir nous élever correctement. L'honneur rendu aux parents n'est que de la reconnaissance, voilà, pour l'honneur que nous avons reçu. Alors, en fait, cette cinquième parole nous invite à transmettre la vie éternelle que nous avons reçue, bien sûr. Parce que ça, c'est aussi important, hein, chez les Hébreux, chez les Juifs, la transmission. Ça, c'est important. Le souvenir et la transmission de ce souvenir. C'est pour ça que les textes sont arrivés jusqu'à nous. Les premiers textes ont quand même 3500 ans. Premier texte, dans le Premier Testament, ils ont 3500 ans. Ils ont commencé à être écrits il y a 1500 ans avant notre ère, vous rendez compte. Et ils sont toujours là. De plus, cette parole est la seule qui soit suivie d'une promesse, afin que tes jours se prolongent dans le pays que Dieu te donne. Ce passage associe la terre, c'est-à-dire le pays, la nationalité et l'honneur dû aux parents. La nationalité relève aussi de notre héritage et de ce que l'on reçoit sans rien payer. Que tes jours se prolongent. Qu'on soit d'origine d'Afrique, d'Asie, d'Amérique, on a un héritage qui est aussi issu de notre pays, de notre nationalité, de notre langue, de notre culture. Et ça aussi, c'est important. Non pas que ça doit se substituer à la culture française, mais elle accompagne, elle est complémentaire, elle est une richesse. Donc chacun aussi a cette origine qui lui est propre et qui est une richesse pour les autres. Antoine Nuit dit à ce sujet, finalement, cette reconnaissance est bonne pour la santé. Une sorte de mesure d'hygiène spirituelle et morale, puisqu'elle prolonge nos jours. C'est une notion que le peuple d'Israël avait parfaitement compris. Hein. Il a des choses qui nous paraissent naturelles, mais que nous avons besoin de revisiter avec un regard nouveau. En fait, contre l'oubli, la parole de Dieu nous appelle à la mémoire et à la gratitude. Pour nos parents, pour notre santé, comme pour la communauté humaine qui nous a portés. Et nous sommes portés par aussi la communauté chrétienne, par l'Église. Et ça, c'est important d'être conscient qu'on est aussi porté, qu'on se porte les uns les autres. C'est important. Et c'est une force, c'est un atout. Antoine Nuit continue. En dehors de la gratitude, nous sommes conduits à mesurer ce que nous avons reçu. L'étalon de notre mesure ne peut être que le voisin, et dans le registre de la comparaison, nous prenons soin de prendre comme modèle le voisin le mieux loti que nous. On compte ce qu'il a reçu en héritage et on trouve qu'il est injuste que nous ayons moins. Cette approche est mortifère, bien sûr. Nous le savons, et pourtant, nous ne pouvons nous en empêcher et de nous y complaire. Pour lutter contre cette lecture, eh ben, il n'est qu'une recette. Rendre grâce pour ce que nous avons. Considérer que ce que nous avons reçu n'est que pure grâce et un pur cadeau. Amen. Cette dernière approche nous positionne comme un maillon dans une chaîne de transmission. En tant qu'héritier, nous avons le devoir de transmettre à ceux qui viennent après nous, les enfants et aussi bien sûr les petits-enfants pour ceux qui en ont, et de ce fait, ce qui fait de nous un maillon dans la chaîne de ceux qui se savent héritiers d'une grâce qui les précède. Et je terminerai avec René Char. Il a résumé ses 4 années, en fait, dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale par une formule étonnante. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Eh oui, l'héritage que le Père Céleste nous donne, il n'y a pas de testament. Non, ce n'est pas ce qui est passé, c'est ce qui va venir qui est important. Si vous voulez, c'est un héritage du futur. Ça paraît bizarre de dire ça, mais bon. Ouais. Pourquoi je vous dis ça? En fait, quand une société s'effondre, c'est vrai, il avait l'impression quand même que la société s'effondrait à ce moment-là, hein, elle ne laisse aucun mode d'emploi derrière elle. C'est pour ça qu'il est important d'honorer ses parents, parce que c'est aussi une façon d'associer un testament à l'héritage que nous avons reçu. Une façon d'inscrire sa vie dans l'appel et la gratitude et le devoir de transmission. Amen. Merci pour votre écoute.